Des hommes de paix dans la Grande Guerre, le père Chibas Lassalle et les bénédictins de Belloc. Voici la première partie de la conférence du frère Marc Doucet, bénédictin à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Une conférence enregistrée le 27 mai 2016 à Pau dans le cadre des plus de la formation permanente. L'intervention du père Marc Doucet est précédée par l'intervention de Pierre Tosia, historien, qui nous rappelle le contexte historique pour les catholiques au moment de la Première Guerre mondiale en 1914. Voici donc l'intervention de Pierre Tosia, historien, suivi de la première partie de l'intervention du frère Marc Doucet, bénédictin à l'abbaye de Belloc.
Merci Marilyn, merci à tous d'être venus et merci frère Marc d'avoir bien voulu accepter de nous présenter ces hommes de paix dans le temps de la guerre. Le père Marc est l'archiviste, entre autres, l'archiviste de Belloc. Il connaît parfaitement l'histoire de Belloc. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Des hommes travaillés par Dieu », qui est un modèle d'honnêteté intellectuelle et d'intérêt. Et donc, il m'a demandé, avant d'intervenir, de vous présenter un peu le contexte, la situation dans laquelle étaient les catholiques français à la veille de la Première Guerre. Je vais essayer d'être très court, parce que pour lui passer la parole, il y a des choses qui mériteraient d'être nuancées, d'être développées. On répondra éventuellement à des questions après, si c'est nécessaire. Juste trois idées. La première idée, c'est que les catholiques français connaissent un réveil religieux après des épreuves considérables. En 1914, les catholiques français sortent d'une longue série d'épreuves qui commence après l'affaire Dreyfus, avec la montée de l'anticléricalisme, la formation du bloc des gauches et un certain nombre de mesures, on va dire, discriminantes et difficiles. En particulier, la loi Valdecrousseau sur les associations, qui demande aux congrégations de demander une autorisation. Cette loi est transformée un peu en loi de combat par Combes, qui refuse systématiquement les autorisations. Et les religieux sont obligés de se séculariser ou de s'exiler. Les moines de Belloc doivent partir pour l'exil. Ils se réfugient en Espagne, à Lascano, dans un couvent pauvre, dans le Guipuscoa. Ils sont bien accueillis par la population, mais leur existence est difficile. Ils vont aussi essaimer dans les fondations de Belloc, c'est-à-dire en Terre Sainte, en Amérique du Sud et aux États-Unis, dans les territoires de l'Oklahoma. Donc, en 1914, la communauté de Belloc n'est pas Belloc. C'est une communauté exilée et dispersée. La loi de séparation est présentée en 1905 comme une loi de lutte anti-religieuse, on peut dire, avec des interventions qui présentent la religion comme quelque chose de rétrograde, et qu'il faut essayer de réduire, voire d'éradiquer. Mais c'est un type, on peut penser par exemple à Allard ou encore à Viviani qui dit « Nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus ». Mais cet anticléricalisme trouve vite ses limites. En 1905, Combes doit démissionner devant le scandale des fiches. On espionnait l'attitude religieuse des fonctionnaires et surtout des officiers. Cette affaire est découverte, le général André doit démissionner et puis ensuite le ministère. Il est remplacé par un ministère plus modéré dans lequel la cheville ouvrière est Aristide Briand. Aristide Briand est un homme intelligent, il comprend que la loi de séparation doit être acceptable et elle va devenir un compromis entre la laïcité et la tolérance. En s'appuyant sur la jurisprudence du Conseil d'État en particulier, cette loi va permettre aux catholiques de vivre dans la liberté, liberté en particulier d'exercer la religion. Vous connaissez les deux articles de la loi. La République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, mais la République assure la liberté de conscience et la liberté de culte. Et la crise des inventaires en 1906, où les catholiques s'opposent quelquefois par la force, par des manifestations assez dures, contre les inventaires des biens d'église, qui était une mesure administrative, mais qui pouvait passer comme une entrave à l'exercice du culte, Donc la querelle des inventaires montre la détermination des catholiques. Touche pas à mon église, touche pas à mon curé. Clémenceau comprend l'affaire, arrête les inventaires. Et à partir de là, il y aura une jurisprudence qui donne aux catholiques, on peut dire à peu près complètement, l'exercice du culte. L'église devient libre, elle devient pauvre, mais elle est libre. D'autre part, à partir de 1906, on s'aperçoit qu'il y a d'autres questions que l'anticléricalisme, en particulier la question sociale, avec la montée de grève et l'agitation sociale. Et pendant que ces épreuves se passent, on assiste, très discret mais de plus en plus important, à un réveil religieux dans le monde catholique, avec en particulier la conversion de nombreux intellectuels et des intellectuels plutôt jeunes. Il y a un excellent livre sur la question, c'est le livre de Frédéric Gugelot sur la conversion des intellectuels français. Il couvre la période 1885-1935, mais l'âge d'or, si vous voulez, que décrit ce livre, c'est la période 1905-1914. Un des moteurs de cette conversion, c'est le rôle de Bergson. Bergson va changer un peu la donne après le scientisme et le positivisme. En 1907, il fait paraître l'évolution créatrice. Et il montre que le matérialisme historique ou le matérialisme, même la méthode expérimentale, sont limités parce qu'elles ne touchent que l'effet matériel. Bergson montre l'importance de l'intuition, de l'esprit de finesse, qui permet de découvrir le monde intérieur, la vie intérieure, la durée. Il montre aussi le rôle spirituel de l'élan vital dans le déroulement de la vie. Et l'élan vital, c'est l'adaptation de l'homme, de la nature, aux contingences de l'existence. Il n'est pas déterministe. Il s'adapte aux circonstances. Il est porteur de liberté. Cette influence de Bergson est considérable, même si ses ouvrages, les ouvrages les plus importants viendront plus tard, par exemple, les deux sources de la morale et de la religion. Bergson est juif, agnostique peut-être à l'époque. Il va se rapprocher progressivement, vous le savez, du catholicisme, mais à partir de 1937, mais il ne se fait jamais baptiser parce que l'antisémitisme monte en Allemagne et il ne veut pas avoir l'air d'abandonner le peuple juif. Mais il demande qu'à ses obsèques, en 1941, les prières soient dites par un prêtre. Il a même dit, à défaut de prêtre, on appellera un rabbin, mais on lui dira que je me suis rapproché du catholicisme. Bergson est l'homme d'une grande honnêteté intellectuelle. Et sa pensée va introduire un bouillonnement qui rejaillit sur un grand nombre d'intellectuels, parmi eux Peggy. Peggy est un disciple de Bergson. Il est emblématique de ce réveil religieux. Il va se rapprocher à partir de 1907-8 du catholique. Enfin, il est catholique, mais il va revenir à la foi, à la pratique. C'est un intellectuel honnête, scrupuleux, désintéressé, socialiste. Il a pris position pour Dreyfus au moment de l'affaire Dreyfus, mais il déplore que la mystique dreyfusarde soit devenue une politique politicienne matérialiste. Il est à la conjonction, si vous voulez, du réveil religieux et du réveil national. C'est un homme de progrès, mais c'est en même temps un homme de tradition. C'est le poète du renouvellement des générations. Il est pour l'honneur de la race. Dans le mot race, chez Bergson, il ne faut voir rien de technique, rien de raciste. C'est simplement la continuité des générations qui nous porte et qui nous oblige. 20 siècles de peuple et 20 siècles de roi. Il dit que le passé de la France, l'honneur d'un peuple, est d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'il assume tout le passé de la France et il veut lui faire honneur. Au moment de sa conversion, il va entraîner avec lui un certain nombre d'intellectuels, en particulier des professeurs de l'enseignement public, comme Joseph Lott, qui va fonder un bulletin des professeurs de l'enseignement public. C'est des gens qu'on appelle les talas, parce que quand ils sont étudiants, ou après, ils vont à la messe. Et il y a là un changement d'attitude. Il est proche aussi de Jacques Rivière, qui a épousé la sœur d'Alain Fournier. Le troisième protagoniste, si vous voulez, de ce réveil, peut-être, c'est Jacques Maritain. Maritain vient de loin, lui aussi. Il est le petit-fils de Jules Grévy, un des fondateurs de la Troisième République. Il est d'abord un socialiste libertaire, et puis à partir de 1904-1905, il se convertit au catholicisme avec sa femme, Raïssa Oumansoff, Raïssa Maritain, et dans leur maison de Meudon, ils vont être un foyer de réveil intellectuel et religieux pour un grand nombre d'universitaires, d'intellectuels. Il va se rapprocher du thomisme, enfin, la carrière de Maritain ne fait que commencer, mais son influence est considérable. Dans ce contexte-là, on pourrait situer aussi Francis Jammes, pour le Sud-Ouest, Francis Jammes qui s'est éloigné de la religion, il revient petit à petit sous l'influence en particulier du père Michel Caillava, des bénédictins de Belloc et puis d'autres intellectuels. En 1905, Francis Jammes communie de nouveau et la messe est dite par le père Caillava, Michel Caillava, et elle est servie par Claudel. Vous voyez, c'est là. Voilà. Un autre intellectuel qu'on peut citer aussi, bien que ce ne soit pas un converti, c'est un apôtre, c'est Marc Sangnier et le Sillon, qui a une influence considérable sur la jeunesse française à la veille de 1914. Marc Sangnier montre l'adéquation, prouve l'adéquation entre l'Évangile et la démocratie politique, la République, et la démocratie sociale, avec en particulier la participation. Il va faire beaucoup de, vous le savez, il a fait quantité de disciples, son influence est considérable, on peut citer Mauriac, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres. Donc, en 1914, les crises du catholicisme sont derrière lui. Il a adhéré à la République. Ça avait été commencé avec le ralliement, mais c'était encore un peu tiède. Là, c'est franc et massif. Et il a adhéré aussi à l'esprit scientifique, à la révolution scientifique. Les catholiques acceptent l'évolution, l'évolutionnisme. Ils y voient même un indice, si vous voulez, de l'action de Dieu sur le monde. Et en 1914, le jeune jésuite Teilhard de Chardin, paléontologue et l'assistant de Marcelin Boule au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, les crises sont un peu surmontées. La deuxième idée, je vais aller plus vite, c'est le développement, à partir des années 1910, le réveil du sentiment patriotique, du sentiment national. L'occasion, c'est les crises qui opposent la France et l'Allemagne à propos du Maroc. Crise de Agadir en 1911, crise de Tangier en 1905, crise d'Agadir en 1911. L'Allemagne conteste la présence française au Maroc, mais la France est soutenue par l'ensemble de l'Europe. Le résultat des courses, c'est que dans la jeunesse française en particulier, se développe un sentiment de patriotisme, il faut serrer les rangs. Et il y a une enquête menée par l'Écho de Paris, qu'on appelle l'enquête d'Agaton, mais qui a été en fait menée par Guillaume de Tarde et Henri Massis, qui montre l'attachement progressif des jeunes aux valeurs du catholicisme et du patriotisme. On voit remonter à partir de 1910 les candidatures et les entrées à Saint-Cyr. Entre dans ces années-là à Saint-Cyr une flopée de jeunes candidats qui vont être plus tard les officiers de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Vous les connaissez, il y a De Gaulle, il y a Juin, il y a Delattre, il y a Loustalot-Lacour, enfin bon, il y a... Voilà. Et on peut dire que Péguy, toujours lui, est à la jonction de ces deux courants, le réveil religieux et le réveil patriotique. Alors, on n'a pas le temps ici de citer les vers d'Ève de la tapisserie de Notre-Dame, vous les connaissez tous, c'est des vers poignants, d'autant que Péguy les a signés de son sang un peu plus tard, en 1914. Mais j'en cite juste deux. « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. » Et on va voir que la guerre 14 apparaît comme une juste guerre. « Heureux ceux qui sont morts pour l'âtre et leur feu et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois, mais 20 siècles de peuple et 20 siècles de rois ont appris ce que c'est que d'être familier. » Voilà, la troisième idée, deux mots là-dessus, si vous voulez, c'est qu'en 1914, les Français en général et les catholiques en particulier ont le sentiment que la guerre qui arrive, je ne dirais pas, est une guerre juste, mais que c'est une guerre qu'on ne peut pas refuser. On nous l'a imposée. L'Allemagne nous l'a imposée. Alors, on peut approfondir les causes de la guerre. Il y a des responsabilités pour le moins partagées, en particulier celle des Serbes, qu'on n'a pas calmée assez tôt. Mais bon, en fait, quand même, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Elle l'envahit, elle viole la neutralité de la Belgique, elle commet quelques atrocités plus ou moins volontaires au début de la guerre, Et ça nous donne, si vous voulez, le sentiment qu'on est agressé et qu'on est dans notre droit. D'autant que Poincaré, fin juriste, a fait reculer les troupes françaises de quelques kilomètres en deçà de la frontière. Donc, voilà, on se sent agressé. Masaryk, le futur président de la Tchécoslovaquie, dit à Poincaré, dans cette guerre, la France attaquée, envahie, meurtrie, est la conscience de l'Europe. Bon, c'est des mots, mais c'est un peu ce que les gens ressentent. Deux témoins, vous connaissez le contexte, il n'y a pas la fleur au fusil, il n'y a pas l'enthousiasme, mais il y a le sentiment qu'il faut y aller, qu'on peut pas, on ne peut pas y aller. Marc Bloch, l'historien Marc Bloch, dit qui n'a pas vu Paris ces jours-là, c'est-à-dire au moment de l'autre août 14, n'a rien vu. Les hommes n'étaient pas gais, ils étaient résolus, ce qui vaut mieux. Et Péguy dit nous sommes partis, soldats de la République, pour le désarmement général et la République universelle. Deux autres exemples aussi. Le fils de Bartou s'engage. Il va être tué, Max Bartou va être tué quelques jours après, avec dans sa poche l'imitation de Jésus-Christ. Le fils de Jaurès s'engage à 17 ans, en tout cas son âge. Il va être tué en 1918. Et les catholiques participent à ce mouvement. Ils réintègrent en quelque sorte la communauté nationale dont ils s'étaient plus ou moins sentis un peu exclus avec les mesures anticléricales à partir de 1901. Et un exemple, le père du général Leclerc, Adrien de Hautecloque, était maire de son village royaliste. Il ne fêtait absolument pas le 14 juillet. En 1914, il s'engage, bien qu'il soit chargé d'enfants et qu'il soit âgé, il devient lieutenant et en 1917, il défile avec le drapeau de son unité à Paris. Juste deux textes, puis je m'arrête là, pour situer ces deux textes, parmi d'autres, qui donnent une idée sur la position des catholiques, mais il y en a des quantités. Une carmélite d'Oloron, qui écrit à son neveu mobilisé. C'est à nous de faire notre devoir pour notre chère et bien-aimée patrie. Étant innocent, Dieu ne peut que nous donner en droit la victoire finale. Voilà, nous sommes innocents, donc. Et notre texte, l'archevêque de Pondichéry, vous connaissez les cinq comptoirs, donc à ses missionnaires des missions étrangères. La veille de Trafalgar, l'amiral Nelson transmit à la flotte l'avertissement célèbre. L'Angleterre attend de chacun qu'il fasse son devoir. C'est le mot par lequel je termine. Dieu, la patrie, la société des missions étrangères attendent que chacun fasse son devoir, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve placé. S'il faut être soldat, soyez soldat. Le missionnaire est le soldat de Dieu, toujours et partout. Que la bonne mère et votre Saint-Ange vous aient en leur garde et que vous marchiez fièrement en répétant la devise de la bienheureuse Jeanne d'Arc, pour Dieu, pour la patrie. Voilà, je m'arrête là pour laisser la parole au père Marc.
Des hommes de paix dans la Grande Guerre, le père Chibas Lassalle et les bénédictins de Belloc. Voici la première partie de la conférence du frère Marc Doucet, bénédictin à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Une conférence enregistrée le 27 mai 2016 à Pau dans le cadre des plus de la formation permanente. L'intervention du père Marc Doucet est précédée par l'intervention de Pierre Tosia, historien, qui nous rappelle le contexte historique pour les catholiques au moment de la Première Guerre mondiale en 1914. Voici donc l'intervention de Pierre Tosia, historien, suivi de la première partie de l'intervention du frère Marc Doucet, bénédictin à l'abbaye de Belloc.
Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, d'abord je voudrais remercier Madame Marie-Lise Sillière et puis l'abbé Jean Cazanave qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à parler un petit peu des moines de Belloc à la guerre de 14. J'y travaille depuis quelques années quand même pour trouver les documents, etc. Et surtout les déchiffrer avec de bonnes loupes. Et il y a quelque temps, le père hôtelier me dit « Est-ce que tu n'aurais pas du travail pour un jeune qui fait retraite au monastère ?»« Oui, oui, je peux lui trouver quelque chose, oui. » Alors j'ai eu ce petit jeune, jeune très intelligent, il était en troisième, je crois, ou quatrième, je ne sais pas. Puis voilà, bon, il fait du travail, je travaillais à côté. Et puis il me dit tout d'un coup « Ah, père Marc, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, un vieux papier. »« Ah bon ?»« Oui, on n'a pas de vieux papier, alors... » Papier, bon. Oh, un papier de 1939. il me dit. Ah, je lui dis, mais... Alors je lui dis, mais moi j'ai des papiers de 1914. Comment ? 1914, comme s'il avait trouvé un manuscrit du 5e siècle. Et là, vraiment, j'ai compris comment nous, dans les livres, on croit qu'on y est, qu'on vit là, en 1914, mais c'est un autre monde, quoi. Voilà. Bon, bref, on va parler de cet autre monde, mais je le fais quand même avec plaisir, avec joie, avec reconnaissance, parce que, alors qu'à l'échelon national, on exprime sa reconnaissance à ces soldats-là, à ces combattants, eh bien, bon, je suis heureux de le faire à mon petit niveau pour les religieux, d'abord religieux et clergés qui a pris part, qui a pris sa part. Et puis, à mon avis, les moines de Belloc sont très représentatifs de la population régionale, béarnaise, sud des Landes, Pays basque, c'est tout à fait ce monde. Donc, je vais parler des moines de Belloc, on ne peut pas parler pendant 2 heures, mais c'est ce monde, au fond, que j'évoque un petit peu. Voilà. Alors, je remercie beaucoup M. Tozia de sa présentation, que j'ai beaucoup appréciée, et qui me permet d'entrer directement dans le sujet. Je voudrais le faire en 3 volets. M. Tozia a fait 3 idées, je ferai simplement 3 volets. Le premier, ce sera une vue d'ensemble des moines de tous les moines de Belloc à la guerre. Le deuxième volet sera consacré plus spécialement à un père, le père Anselme Chibas Lassalle. J'en dirai un petit mot. Et enfin, le troisième volet, beaucoup plus spécial, à vrai dire, je ne sais pas si j'aurai le temps, d'un père de Belloc, évidemment, qui n'a pas fait la guerre, mais qui est intervenu d'une façon assez bizarre, je vous le dirai. C'est une façon assez spéciale. Bizarre, c'est pas le mot, mais spécial. Voilà. Alors, un mot sur les sources. Les sources, c'est les sources que nous avons au monastère, on a très peu de choses. Hélas, très peu de choses. Et des papiers et des cartes postales, des cartes écrites au crayon, c'est très difficile à lire. Bon, je suis arrivé à lire tout ça, mais c'est vraiment très pénible. Et puis des carnets, je ne les ai pas apportés ici, c'est des agendas de ce niveau à peu près, de poche bien entendu, qui sont toute la durée de la guerre, depuis le début à la fin, tenu par un père, le père Chibas Lassalle. Alors, c'est bien écrit, l'encre est bonne, le papier est bon, ça se lit assez facilement. Et en plus, il notait vraiment des choses intéressantes, ce qui l'avait frappé, et puis il notait partout où il passait. Alors, on peut suivre absolument à la trace. Avec cette seule difficulté, c'est qu'il écrivait les noms de lieux comme il les entendait. Voilà, c'est là qu'arrive une petite difficulté. Bon, passons. Alors, premier volet. Donc, une vue d'ensemble des moines de Belloc à la guerre de 14. Monsieur Tozia vous l'a dit, la communauté est partie de Belloc, mai 1903. Elle avait 15 jours pour partir parce que rien n'était prêt et s'est réfugiée en Espagne. Voilà, grosso modo, c'est ça. Mais en pratique, c'est pas ça parce que rien n'était prêt pour cette expulsion, parce que le supérieur et fondateur, qui avait été lui-même aumônier à la guerre de 70 avec d'autres fondateurs de Belloc, disait, mais alors qu'on lui disait, mais vous allez être chassé de France. Et il disait, mais c'est pas possible. On fait pas de politique, on prêche l'évangile, on prêche la bonne parole, et on n'est pas un danger pour la République, etc., etc. Et quand il a fallu partir, rien n'était prêt. Autrement dit, la communauté a explosé et est partie dans toutes les directions. Voilà. Alors, le gros de la communauté, finalement, s'est réuni en Espagne, au sud de Saint-Sébastien, une 50aine de kilomètres au sud de Saint-Sébastien. Et là, dans ce groupe de moines qui était là, il y avait... 9 moines qui étaient de la territoriale, c'est-à-dire après le temps actif et la réserve de l'activité, et 6 de l'armée active. Bon, je passe sur le. Dont un le bruit courait que quand il s'était présenté à la caserne pour la guerre, et on lui avait dit, mais on ne vous a pas appelé, vous pouvez repartir. Bon, on trouvait bizarre, mais... Et effectivement, ça se trouve dans les papiers des archives départementales. Ça se trouve, c'est écrit dans sa fiche matricule qu'il s'est présenté, mais que les papiers n'étaient pas arrivés, je ne sais pas quoi. Enfin, tout ça, c'est expliqué. Entre parenthèses, je dois remercier le personnel des archives départementales qui m'a beaucoup aidé. Elles ont vraiment été très sympas avec moi. Voilà. Alors, un autre groupe conséquent du monastère était parti pour Jérusalem. On avait une fondation, bon, c'est très complexe. Et là, il y en avait trois de l'armée territoriale et trois autres de la réserve de la territoriale. Vous voyez, ce n'était pas la première jeunesse, quand même. Enfin, il y avait quelques moines qui étaient partis en Argentine. J'en dirai un mot, c'est important. Ils sont pas revenus. Sauf deux, ils sont pas revenus. Ils ont été insoumis. Je dirais pourquoi, comment. Et enfin, il y en avait un autre groupe dans le territoire indien qui deviendra simplement en 1906 l'État d'Oklahoma. Avant, c'était un territoire d'Indiens, c'était une réserve d'Indiens. Voilà. C'était des gens misérables, traités comme des rien du tout. Et les, voilà. Bon, le monastère La Pierre qui vire, avec Belloc et compagnie, avait fait une fondation et ils se trouvaient là. Voilà, grosso modo, les moines qui sont susceptibles de partir et qui vont partir. La plupart vont partir. Les moines arrivent donc pour la guerre et, voilà, bon, je passe sur les détails. Et la guerre est commencée, et voilà, les moines sont affectés, je passe, ça n'a aucun intérêt. Et puis la guerre commence avec la bataille de la Marne. Au début, on a vu ça, voilà. Alors on connaît l'ordre de Joffre, c'est le 6 septembre 1914. La 4e armée, état-major, message du commandant en chef, 6 septembre à 9h, au moment où s'engage une bataille dont dépend le salut du pays, il importe de rappeler à tous que le moment n'est plus de regarder vers l'arrière. Tous les efforts doivent être employés à attaquer et refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut plus avancer devra, coûte que coûte, garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. Dans les circonstances actuelles, aucune défaillance ne peut être tolérée. Signé Joffre. Voilà. Et le premier moine que je citerai, c'est le père Bernard Lartigot, parce qu'il fut porté disparu, précisément dans ces circonstances, le 10 septembre. Donc l'ordre de Joffre et le 6, et le 10, il est porté disparu dans cette bataille de la Marne. Le combat se fait à La Ville au Roi. Je ne sais pas si c'était marqué là-dedans. C'est tout près du Chemin des Dames. Alors, je dis un mot sur ce fameux Chemin des Dames que j'évoquerai à plusieurs reprises et dont il sera fait plusieurs fois mention. C'est une route dans le département de l'Aisne, orientée est-ouest et d'environ 30 km, suivant une crête entre la rivière de l'Aisne au sud et la rivière de l'Ailette au nord. À l'ouest, elle est limitée par la route Soissons-Laon et par le plateau de Californie, vous l'avez vu, et à l'est, du côté de Craon, par la route Reims-Laon. Voilà. Alors, je me suis un petit peu attardé là-dessus, il faudrait voir l'image. On a pris plus tard, donc, plus ou moins à cet endroit, le père, donc, Lartigallo, avait été fait prisonnier. On l'a pris ça plus tard, par une carte postale, quand il sera envoyé en Allemagne, qu'il pourra écrire quelque chose. Il était du canton de Mazerolles, c'est-à-dire à 20 km à peu près au nord d'ici, je pense. Il avait fait son service dans le 18e, à Pau, et c'est 3 semaines après qu'il est porté disparu. Presque au tout début. On l'a appris à Belloc très tard, et un père, dans son carnet, note au 8 avril 1916 qu'il reçoit un mot de lui, où il y a simplement ceci, « Lettre reçue du père Lartigot, prisonnier de guerre. Adresse, Erfurt, 4e compagnie. » C'est tout. Mais ça suffit pour le contacter. Et il sera rapatrié le 28 décembre 1918. Et il sera démobilisé le 2 avril 1919. Après lui, j'évoquerai le père Julien Puyade, qui était du canton de Saint-Palais. Il est un moine de la fondation de Jérusalem. Il vient de Jérusalem. Quand il a appris la déclaration de guerre, il a dit « Ah, c'est très bien. Comme je suis heureux, je puis faire beaucoup de bien aux soldats. Sans doute, il y a mes pauvres parents, mais ils feront le sacrifice pour Dieu et pour la France. » Et plusieurs disent ça. C'est le mot qu'a cité M. Tosia, « pour Dieu et pour la France ». Plusieurs l'écrivent. Bon, lui, par exemple. Il fut tué le 12 octobre 1914, très rapidement après, à la baïonnette, à l'assaut, à la baïonnette, sur le versant du plateau de Vauclair, chemin des Dames, on l'a vu. Et il est inhumé au nord du village de Ourche-la-Vallée, la partie du chemin des Dames tenue par la 36e division avec le 18e de Pau, où beaucoup de Basques, Béarnais et Landais, et d'autres aussi, bien sûr, sont tombés. Maintenant, j'évoque le père Bernardin Vignot, qui était de Lemme, dans le Vic-Bilh, pas loin d'ici. Lui aussi était revenu, d'Espagne. Le supérieur écrit ceci. La mobilisation l'avait surpris, tandis qu'il prêchait aux filles de la croix d'Ustaritz. Il avait 40 ans. Il n'appartenait déjà plus à la territoriale, mais quand il fut mobilisé, il ne se supporta pas, ne faisant que garder les ponts de la Bidassoa. Et il s'offrit pour partir sur le front en remplacement d'un jeune père de famille. Il devait y tomber le 25 janvier 1915, frappé d'une balle en plein front. Quelques jours avant sa mort, je recevais de lui cette carte écrite au crayon, précieusement conservée et dont l'écriture s'effaçait par l'usure du temps. S'effaçait et s'efface encore. Je cite, il cite, « C'est d'une guitoune que je vous réponds pendant que sur nos têtes sifflent les marmites boches. Il me demande des détails sur la guerre actuelle. » Je suis arrivé un peu en retard en première ligne et les épisodes les plus intéressants me manquent. Néanmoins, j'aurai sur la guerre des tranchées quelque chose à dire. Cette fois, nous occupons la deuxième ligne. Donc, presque pas de guet à faire, presque pas d'attaque à redouter. C'est le calme et le repos pour vous qu'on fasse bien son métier de taupe. » Fin de citation. Il reçut une carte postale d'un confrère, le père Pierre Lubac, dont je parlerai plus tard. C'est la caserne Bernadotte. On la verra après, je crois. Alors, on voit la caserne. Alors, il n'y a pas un arbre comme maintenant. J'ai vu, c'est très joli maintenant. Alors, autrefois, il n'y avait rien. C'était nu, une grande façade, je ne sais pas combien de fenêtres. Et alors, sur la carte postale, sur la photo, il avait écrit « Et dire que ce fut un jour ta villa ». Voilà. C'est précieux, pour moi c'est précieux. Un autre moine, le père Charles Campet, qui se battait en même temps qu'eux, a écrit ceci au sujet du père Vignot et du père Puyade, les deux qui étaient proches, ils sont tombés presque au même endroit. Je cite, « L'un et l'autre père avaient pu venir me voir dans la tranchée Hurtebise, 2 jours avant leur mort. » S'il m'en souvient bien, c'est le 9 octobre 1914 que le père Julien et l'abbé Salah, je crois que c'était un bétharamite, je ne suis pas sûr, en ligne, assez près de ma compagnie, me firent cette gentillesse. 2 jours après, j'apprenais, là où nous étions repliés pour le repos de 48 heures, que l'un et l'autre venaient d'être fauchés par les mitrailleuses Bosch dans un assaut en plein jour, en terrain découvert et sans aucune préparation d'artillerie. Quelques jours après, je trouvai un petit cimetière creusé pour les victimes de cet assaut et parmi ces tombes, l'une qui portait le nom de Julien Puyade. Ce groupe d'une quarantaine de soldats se trouvait un peu au-dessus du village de Ourche, un peu en contrebas du champ de l'assaut, tous les camarades avaient ramené ses victimes. Qu'est-il devenu de ces tombes dans une zone si âprement disputée? Je ne saurais le dire. Le père Bernardin Vigneault, en ligne aussi, sur ma gauche, vint aussi me voir dans ma tranchée entre le 20 et le 24 janvier 1915. Je lui fis remarquer que les Boches creusaient perpendiculairement aux nôtres des tranchées qui faisaient prévoir manifestement, je ne sais pas quoi, il y a un mot qui manque. J'apprenais encore que le père Bernardin, au sortir des grottes avec sa section pour un assaut, était tombé frappé d'une balle en plein front. C'est la mort qu'il nous avait donnée comme la mort idéale d'un soldat. Le surlendemain au soir, mon bataillon allait contre-attaquer à l'endroit même où le pauvre père Puyade est tombé. Et c'est là que je fus blessé en même temps que l'abbé Bisquet, un prêtre du Pays Basque. À partir de ce moment, cette zone a été abandonnée par les deux camps et longuement pilonnée par les deux artilleries. Les victimes n'ont donc jamais été identifiées, à moins qu'on ne puisse le faire par les plaques d'identité. Et la tombe elle-même du père Julien en a très bien pu être bouleversée par cet orage infernal. Interfecti in bello in pace vivante. Que ceux qui ont été tués à la guerre vivent dans la paix. Voilà donc, copain de moine avec lui, et presque dans le même secteur. Donc voilà, c'était le père Charles Campé que j'ai très bien connu, qui est mort âgé, qui écrivait cela. Il était né en 1888 à Biriatou, où son père était douanier, et il avait un frère également douanier. À la guerre de 14, il est mobilisé comme sergent, envoyé au front, et le 26 janvier 1915, il est grièvement blessé au combat de Marché, toujours le chemin des dames. Toujours le chemin des dames, parce que c'est le régiment, c'est la 36e division, le 18e d'infanterie, le 49e de Bayonne, etc. C'est les types du secteur, entre autres. Enfin, aussi. Voilà. Il est blessé d'éclat d'obus et évacué, avec une belle citation. Après, il a été affecté à un train sanitaire qui ramenait les blessés de Verdun vers l'arrière. Il a écrit des souvenirs. Il n'était pas du tout écrivain, pas du tout le genre. Mais il a écrit des notes très précises sur son itinéraire. Je ne peux que faire que les évoquer. Un autre frère, le frère Jean-Baptiste Elissalde, va trouver la mort à Mazingarbe, dans le Pas-de-Calais. Il est blessé le 5 février 1915. Octobre, novembre, janvier, février, vous voyez, ça tombe. Il est dans un coron des mineurs avec 9 autres compatriotes de Basque et Béarnais. Et lui-même sera tué donc, et décoré à titre posthume. Un autre, le père André Pouey, lui vient de l'Oklahoma, donc missionnaire là-bas chez les Indiens. C'est un missionnaire, il a écrit beaucoup de poésie, beaucoup, on a quelques cahiers de lui de poésie, plusieurs sur la vie missionnaire à l'époque, mais hélas très peu sur le sujet qui nous intéresserait, la guerre de 14. Voici par exemple quelques lignes sur sa vie de missionnaire. Je ne suis pas poète, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, j'en sais rien, vous apprécierez. Je le cite. « Lorsque je parcourais les plaines d'Amérique, apportant l'évangile aux farouches indiens, ou que je ramenais à leur foi catholique des colons oublieux de leur devoir de chrétiens, parfois, durant le cours d'un pénible voyage, la fatigue, l'ennui m'envahissaient, hélas. Mais alors je sentais revenir mon courage, quand je pensais que Dieu conduisait mes pas, et joyeux, je chantais à travers la campagne au trot de mes chevaux. » Voilà, alors vous avez des cahiers entiers, c'est très intéressant, évidemment. Ça, c'est le missionnaire. Maintenant, un quatrain sur la guerre, ou deux, trois quatrains sur la guerre. Mais voici que soudain se déchaînait la guerre, qui devait englober le monde tout entier et répandre partout les deuils et la misère, en faisant des pays un immense charnier. Je partis aussitôt défendre ma patrie. Au milieu des dangers dont j'étais entouré, je priai le Seigneur et la Vierge Marie, et marche alors à mon cœur rassuré. Dans ce temps, j'ai pris part à plus d'une bataille. Bien des fois, j'ai senti me frôler le trépas, mais parmi les obus et les feux de la mitraille, j'ai pu voir que mon Dieu me couvrait de son bras. et je revins heureux à mon cher monastère. Voilà. Alors, les fiches, sa fiche personnelle aux archives est plus précise sur les combats que cette poésie, évidemment. Il a été décoré de la croix de guerre, et dans sa fiche, je trouve des renseignements que je n'ai jamais éclaircis. Il est dit qu'il est passé dans l'armée américaine. Je ne sais pas ni pourquoi ni comment, parce qu'il savait l'américain, je pense. Je n'ai aucune lumière là-dessus. Et lui-même écrit ceci dans le même poème que je viens de citer. Il parle des avions. « Ô beaux oiseaux, je vous salue. Bien des fois, j'ai logé dans vos flancs. Ravi, j'ai couru la nuit et vogué sur l'aile des vents. » Voilà, ça c'est la poésie. Et en note, de son poème, il écrit ceci. L'auteur, il parle de lui à troisième personne. L'auteur fait allusion à ses vols en avion quand il faisait fonction d'aumônier dans l'armée anglaise. Alors, bon, je n'ai pas encore éclairci le mystère. Un autre père, le père Charles Espelette. Il était des Aldudes, au-dessus de la vallée de Baïgorry. D'abord, il fut insoumis, puis rayé des registres de l'insoumission, puis à nouveau insoumis, et puis finalement, il arrive au combat. Ces situations d'insoumis étaient très fréquentes chez les émigrés basques et béarnais. J'en dirai un mot après. Il arrive au combat et il participa à plusieurs combats. Et en particulier, il est blessé le 25 juillet 1917 au Chemin des Dames. Lui aussi au Chemin des Dames, ce qui lui vaut à deux reprises une citation. Un autre père, le père Charles Espelette, je ne l'ai pas connu, parce qu'après la guerre, il est reparti aux États-Unis, il est resté là-bas, il est mort là-bas. Le père Arnaud Latzag, maintenant, celui-là, j'ai très bien connu aussi. Je ne sais pas quand il est mort, mais enfin, il est mort, j'étais rentré au monastère depuis plusieurs années. Également des Aldudes. Il était né en 1880 et il est soldat au 49e. Et un beau jour, le 22 janvier 1916, un frère qui est infirmier à Bordeaux note ceci, dans les carnets du frère infirmier à Bordeaux. Je cite, « À 10h, visite inopinée du frère Latzag, arrivant de Verdun, dans un train sanitaire. Je le trouve un peu maigri, mais avec de bonnes couleurs. J'obtiens d'aller déjeuner avec lui. Nous sortons à 10h30. » Le 31 février 1916, le même frère infirmier note dans son carnet. « Le soir, à 2h15, visite inopinée du père Latzag, qui s'est arrêté de nouveau en rejoignant le front. J'obtiens de l'officier la permission de sortie. Ensemble, nous nous rendons à Saint-Genès saluer deux autres confrères, des moines de Méloc, infirmiers aussi là-bas. » Lui aussi va se distinguer et, heureusement, il a écrit quelques pages de souvenirs sur cette guerre de 14. Alors, citation, tout ce que vous voulez. Un autre père, le père Séraphin Lubac. Son nom de baptême était Pierre. Il a été mêlé aux actions suivantes. 1916, dans les Vosges, à la Chapelotte, le 25 avril. Dans la Somme, du 7 au 10 août et du 3 au 5 septembre. Dans l'Argonne, octobre et décembre, en 1917. En Champagne, à Bermericourt, le 4 mai, au Chemin des Dames, du 1er au 25 septembre. En 1918, dans l'Aisne, à Chauny, bataille de Chauny, le 6 avril, où il fut fait prisonnier. Nous avons de lui des cartes postales. Elles sont écrites au crayon. Et en 1914, il écrit ceci. Je vais vous donner quelques citations de ces cartes postales. « Je suis toujours à Mende, mais on puise toujours dans notre dépôt. Il est à craindre que ce soit bientôt notre tour. » On est en 1914, là. Et effectivement, ce le sera bientôt. Une autre lettre. « J'ai répondu à votre lettre par une épître de 10 pages. Se serait-elle égarée ? Quel dommage. 10 pages de récits qui se sont égarés. » Je note très rapidement, il y avait une correspondance chez les soldats, et même ceux qui étaient en première ligne, au front, qui était très très bien faite, une poste qui était très bien, même au premier rang, tous les jours, les types avec leurs lettres. peut-être pas tous les jours, mais enfin, voilà. Nous, on a hélas que quelques vestiges de cette correspondance, mais on a certains frères, on sait tous les jours à qui ils écrivaient et des lettres de qui ils recevaient. Vous voyez, c'était, bon, c'était incroyable. On est très, très surpris actuellement. Un peu plus tard, je reviens au père Séraphin Lubac. Le 3 juin 1916, mes bien chers amis, nous nous attendons tous les jours à recevoir les décorations. Je suis heureux et quelque peu fier de vous faire savoir que je serai de la fête. On est parvenu à décrocher cette fameuse croix de guerre. Hier, je recevais la feuille relatant la mention de ma citation à l'ordre du jour du régiment. En voici le texte. Pendant le combat de... Pourquoi j'aurais dû mettre le nom ? Parce que ce n'est pas dans la lettre, mais c'est dans le texte officiel. Et puis avec un papier très joli que donne la caserne Bernadotte à Pau. Dans les Vosges, le 25 avril 1916, sous un tir de barrage violent, a relevé avec le plus grand courage les blessés qu'il a ramenés au poste de secours. AMDG, ad majorem Dei gloriam. C'est la formule pour la plus grande gloire de Dieu. C'est la formule de Jésus et puis un peu de tous les religieux. Dans une autre carte postale, il écrit ceci. « C'est toujours pour la gloire de Dieu et le salut de notre chère patrie que nous travaillons avec ardeur. Depuis plusieurs semaines, nous nous engageons beaucoup. Nous sommes tantôt ici, tantôt là. Mais actuellement, nous sommes dirigés, attention au commandement, allusion à la censure, nous sommes dirigés vers un endroit et un front où l'on assomme, mais aussi où l'on risque d'être assommé. » On a envoyé des troupes pour les combats de la Somme, qui ont été les plus meurtriers. Voilà. Enfin, patience et confiance en la divine providence. La santé est assez satisfaisante malgré le nombre de kilomètres que nous parcourons et la poussière que nous avalons. Mais aussi, on voit du pays. Bientôt, probablement, nous serons à nouveau dans les bagarres, dans la fournaise. Je compte toujours sur le concours de vos plus ferventes prières. » Et la dernière carte que nous avons de lui est du 9 juin 1917. Il est en permission à Marseille. « Cher père Anicette, et bien cher... » Ce père Anicette, c'est un père qui était à Ascano et qui écrivait, faisait un lien vraiment constant avec les frères au combat ou infirmiers à droite et à gauche. Cher père Anicette, et bien chers amis, sorti sain et sauf de la terrible et épouvantable fournaise de Champagne. Dieu en soit béni. Je suis en ce moment à Marseille pour une perme de 9 jours. Voilà, c'est les combattants. Je voudrais évoquer maintenant les infirmiers. La plupart des moines de Méloc ont servi comme infirmiers. J'aurais dû le dire que peut-être il y avait une quarantaine de moines. Il y avait plus de 45, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas tous les détails ici, peut-être 45 moines. Alors, évidemment, plusieurs étaient de la réserve de la territoriale. Les plus anciens de la réserve de la territoriale n'étaient pas tous appelés, beaucoup n'ont pas été appelés, étaient appelés ceux qui avaient vraiment une spécialité quelconque. Donc, un mot sur les infirmiers maintenant. Je viens d'évoquer les moines de Béloc au combat. Il y a aussi les infirmiers. Ils ont tous un âge respectable, évidemment, et sont dans la réserve de la territoriale. Le père Irénée Gély était originaire de Lozère. Parce qu'il était moine prêtre, il a été infirmier. Il n'avait aucune compétence particulière pour cela, mais il s'est adapté. Il écrit ceci. « Je viens de traverser une période de travail acharné. Un convoi de 25 blessés nous est arrivé le 13 courant. Ajoutez aux soucis de cette arrivée imprévue les soucis que donnaient plusieurs soldats très gravement malades, dont l'un vient de mourir. Vous aurez une idée du labeur écrasant que j'ai dû fournir 3 jours durant. Il vous faut dire aussi que parmi nos nouveaux arrivés, il y a 8 épileptiques venant du front où ils ont pris la terrible maladie. » Voilà. Beaucoup revenaient du front, peut-être pas blessés, mais avec cette affection épouvantable. Je voudrais dire maintenant un mot sur les moines de Béloc insoumis. Parmi les moines de Béloc, donc mobilisés, il y a eu plusieurs déclarés insoumis, une demi-douzaine. Je voudrais éclaircir ce problème. Quand on parle des insoumis dans notre région, Béarn, Pays Basque, on pense d'abord à ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, qui ne se sont pas rendus à leur lieu d'affectation, mais qui sont passés en Espagne. Aucun moine de Belloc n'est dans ce cas. Au contraire, tous les moines qui étaient à Belloc, en Espagne, sont revenus pour la guerre. Ils ont fait donc le mouvement inverse. Je ferai remarquer que tous ces moines qui étaient dans la région auraient très facilement soit resté en Espagne, soit passé en Espagne. Par exemple, je prends trois exemples concrets. Le père Charles, parmi ceux que j'ai évoqués, le père Charles Espelette, qui venait de l'Oklahoma, enfin du territoire indien, pardon, avait sa maison natale à Skate, aux Aldudes, à 500 mètres de la frontière. Le père Arnaud Latzag, des Aldudes, avait sa maison à 700 mètres de la frontière. Le père Théophane Ardens, dont on va le voir avec, dans une autre catégorie, avait sa maison entre Urepel et les Aldudes. Eh bien, leur mouvement, donc, a été inverse de celui de l'insoumission. Voilà, je voulais dire cela. La deuxième catégorie d'insoumis comprend ceux que la mobilisation a atteints, à supposer que la convocation les ait atteints. Pour ça encore, il faudrait savoir ce qui s'est passé. Là où ils avaient à migrer, émigrer aux Amériques, du Nord ou du Sud, à l'époque c'était surtout le Sud, bien que le Nord commençait, ce sont ceux-là qui n'ont pas répondu à l'appel. Ce sont les insoumis hors d'Europe. C'était une catégorie spéciale. Insoumis hors d'Europe. La demi-douzaine de moines de Belloc insoumis étaient dans cette catégorie. Ils étaient missionnaires en Argentine depuis 1899 ou bien dans le territoire indien depuis 1885. Voilà. La question de cette insoumission a été très étudiée. J'évoquerai pour ma part une enquête qui a été faite en 1906 par l'évêque de Bayonne sur l'émigration. 1906, on n'est pas en 1914. Sur l'émigration. On y trouve la réponse des curés des villages basques et en particulier la réponse très développée du curé des Aldudes précisément. Il dit entre autres ceci, je résume bien sûr, cette vallée ne pouvait vivre sans l'émigration. C'est une question vitale. Il nous faut en tenir compte aujourd'hui dans nos appréciations. Parmi les moines de Belloc, les missionnaires en Argentine et dans l'Oklahoma ont été d'abord insoumis, puis deux sont revenus pendant la guerre. Je vais évoquer ces deux. Alors, les moines qui étaient insoumis, puis à nouveau insoumis, puis qui revenaient, c'était parce que ces insoumis hors d'Europe, comme beaucoup de Basques et de Bernais, il n'y a qu'à regarder les fiches aux archives, eh bien, ils ne revenaient pas pour les périodes militaires, évidemment. Bon, ils ne revenaient pas insoumis, mais ils sont revenus, plusieurs sont revenus pour la guerre. Alors, deux sont revenus, deux moines de Belloc sont revenus. Le premier, c'est le père Henri Lamarque, de Garros. Il est missionnaire en Argentine depuis 1903. Où il a été envoyé par Belloc et il est appelé en 1914. Il manque à l'appel. Finalement, il arrive en 1916. Et le 11 avril 1916, il est mis en état d'arrestation à Menton par les gendarmes. Pourquoi à Menton? Pourquoi en 1916? J'en sais rien, mais les faits sont là. Le 18 juillet, donc arrêté le 11 avril, le 18 juillet 1916, il comparaît devant le conseil de guerre de la 15e région militaire et il écope de 5 ans de prison pour insoumission en temps de guerre. La peine est suspendue et il est dirigé sur le 112e régiment d'infanterie de Toulon où il se présente le 28 suivant. Et de mai à juillet, on l'envoie dans un régiment à Verdun. Les insoumis qui étaient repris étaient en prison, condamnés, mais la peine était suspendue et on les envoyait au bon endroit. Il passe dans différents régiments et finalement, le 7 mars 1918, il est porté disparu. Il a été fait prisonnier sur la Marne et le 7 mars, il est interné en Allemagne. Il sera rapatrié le 22 novembre 1918 et le 18 juillet, on lui a accordé la remise du restant de sa peine de 5 ans de prison. Le 20 janvier 1918, il passe au 18e régiment d'infanterie et le 29 août 1919, il est démobilisé. Voilà, l'itinéraire. Un deuxième frère, c'est le frère Benoît Raymond Bordalt, qui va suivre pratiquement le même parcours. Il est arrêté, alors il revient d'Amérique, il est arrêté par les gendarmes, emprisonnement, tribunal militaire, condamnation, et envoyé au front à Verdun, et puis gracié par le président de la République, qui le délie de sa peine à la fin de la guerre. Exactement le même itinéraire. Voilà. Un mot sur le retour de guerre. Les retours sont échelonnés tout au long de l'année 1919 et les moines anciens combattants s'installent à Belloc. Légalement, ils n'avaient pas le droit de le faire. C'est que le jour de la mobilisation, pour que les religieux ne soient pas hors la loi en revenant en France pour défendre la patrie, le député Malvy, anticlérical, fit voter un décret suspendant, pendant la durée de la guerre, l'application de la loi qui avait chassé de France les religieux. L'union sacrée était décrétée en suivant, l'union sacrée. Et donc, les moines de Belloc vont s'installer avec la formule qui sera plus tard le slogan de tous les religieux à la suite du père Doncœur, le jésuite, « Nous ne partirons pas ». Légalement, la loi était suspendue pendant la durée de la guerre, mais à la fin de la guerre, la loi devait s'appliquer et donc les religieux devaient partir. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le fameux mot « la DRAC », la défense des religieux combattants, avec les religieux, les moines qui ont défilé sur les Champs-Élysées, partout, et voilà, bon. Et l'un d'eux, le père Charles Campé, que l'on a vu blessé à Verdun, qui avait été blessé, que j'évoquais, oui, le disait à sa manière. Il disait ceci. Quand on a le droit de mourir pour sa patrie, on a le droit d'y vivre. Il n'aurait pas fallu aller les déloger. Je voudrais évoquer encore deux autres frères. Le frère Martin Arostzech, ça c'est les... C'est le scribouillard, c'est le scribe de la caserne qui a mis son nom à Arostzech, qui ne veut rien dire, c'est Arostzech. Peu importe. Et le frère Hildebrand Olasabal. Les deux mourront très rapidement, tuberculeux, après la guerre, rapidement, comme plusieurs. Bon, quantité de types sont morts. Voilà, c'était mon premier volet.
Des hommes de paix dans la Grande Guerre, le père Chibas Lassalle et les bénédictins de Belloc, vous venez de suivre la première partie de la conférence du frère Marc Doucet, bénédictin à l'abbaye Notre-Dame de Belloc à Urte. Conférence enregistrée le 27 mai 2016 à Pau, dans le cadre des plus de la formation permanente. Dans la seconde partie de sa conférence, le frère Marc Doucet parlera plus particulièrement du père Chibas Lassalle. Vous pourrez suivre la seconde et dernière partie ce lundi 27 juin à 22h, le mardi 28 juin à 21h, le mercredi 29 juin à 10h, le jeudi 30 juin à 17h et le samedi 2 juillet à 22h. Notez que l'ouvrage du père Marc Doucet, « Des hommes de paix dans la Grande Guerre, le père Chibas Lassalle et les bénédictins de Belloc » a été publié par la Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn.